France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous, il va falloir nous y faire, Donald Trump ne nous aime pas. Horrible, horrible, l'Union européenne est horrible avec nous, les Européens sont des profiteurs, affirmait une fois encore, mardi dernier, le président des États-Unis. Des profiteurs, des parasites, répétait le vice-président J.D. Vance, prompt à la surenchère. Je déteste devoir les assister encore une fois, disait-il au cours de la conversation ubuesque du Conseil de sécurité nationale, captée par un journaliste américain et ponctuée d'émojis, où il était question de protéger le trafic maritime des attaques des Houthis. L'Ukraine, le Groenland, l'OTAN, les droits de douane, la liberté d'expression et depuis hier, la discrimination positive, l'administration Trump 2 n'est à l'œuvre que depuis 10 semaines et on ne compte plus dans tous les domaines les menaces, les critiques, les sarcasmes adressés aux plus anciens alliés des États-Unis et les coups de boutoir infligés à leurs intérêts. En Europe, il y eut le temps de la sidération en février à Munich où, sans un mot sur la guerre en Ukraine, J.D. Vance pourfendit nos valeurs et préféra en rencontrer la patronne de l'extrême droite allemande plutôt que le chancelier en exercice. On s'étonna ensuite du dialogue renoué avec Moscou, la similitude des discours, les promesses d'avantages réciproques. Et puis au fil des semaines, dans toutes les capitales européennes, on a pris conscience d'un tournant, d'un moment charnière dans l'histoire de notre continent, avec son lot de questions et son flot d'inquiétudes. De Londres à Varsovie, des pays baltes au Portugal, nos gouvernements ont réagi à l'unisson, à l'exception, comme d'habitude, de la Hongrie, proclamant leur soutien à l'Ukraine, affichant leur volonté d'accroître, de mieux coordonner leurs propres moyens de défense, sinon de les cofinancer. Beaucoup de discours, beaucoup de promesses, très peu d'engagements fermes. Avant-hier encore à Paris, autour de Volodymyr Zelensky, le président français et le premier ministre britannique réunissaient une coalition de 31 pays volontaires. Face à cette accélération, que disent les opinions publiques européennes? Comment voient-elles le retournement de Washington, l'agressivité de Donald Trump et de son entourage? Vis-à-vis de Vladimir Poutine, observe-t-on les mêmes convergences ou au contraire les clivages se sont-ils creusés entre nos pays comme au sein des familles politiques sur le renforcement de la défense nationale et européenne? Eh bien, c'est ce qu'on va comprendre ce matin grâce aux analyses comparées des meilleurs centres de recherche en Europe, à commencer par le vôtre, Laurence de Nerveau. Bonjour, vous êtes directrice générale du think tank Destin Commun. Dominique Régnier, ravi de vous recevoir, professeur des universités à Sciences Po Paris et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Gilles Gressani, vous dirigez le Grand Continent et vous présidez le groupe d'études géopolitiques de l'École normale supérieure à Paris. Et depuis Londres, merci d'être avec nous, Mark Leonard, le cofondateur et le directeur du Conseil européen pour les relations internationales. Laurence de Nerveau, on apprend hier, je crois que d'abord grâce aux échos, que les entreprises, certaines entreprises françaises qui ont des contrats avec l'administration fédérale américaine ont reçu un courrier disant « la discrimination positive, c'est fini, vous devez appliquer les règlements du président Trump contre ce qu'on appelle là-bas le DEA ».
Diversité, equity, inclusion.
Voilà. Donc, ce qui concerne évidemment la promotion des femmes en particulier, celle des minorités. Alors, on sait que déjà, il y a l'extraterritorialité du dollar qui a coûté cher, notamment à certaines banques françaises. Mais pour vous, est-ce que c'est un signal de plus dans cette espèce de, comment dire, d'escalade ou est-ce que cela nous touche véritablement, encore une fois, au niveau de nos valeurs?
Oui, c'est bien sûr un signal de plus, je pense. Ce courrier dont la presse française se fait largement l'écho ce matin et qui a fait l'effet d'un choc pour toutes les grandes entreprises françaises qui l'ont reçu. Et pour remettre un petit peu en perspective la façon dont les opinions réagissent à ces étapes successives d'un revirement américain extrêmement musclé, voire violent, nous avions réalisé une enquête dans 5 pays, 4 pays européens et les États-Unis, juste après l'entretien entre Zelensky et Trump dans le bureau Oval le 28 février. Cette enquête montrait très nettement en fait, un double effet à la fois de distanciation vis-à-vis des États-Unis, mais aussi de resserrement des liens entre Européens. D'abord, sur des choses extrêmement basiques, on avait entendu Trump, il y a quelques semaines, qualifier Zelensky de dictateur. Et bien, à l'inverse, dans cette étude, plus de 80% des personnes dans chacun de ces pays qualifiaient au contraire Poutine de dictateur. Et même en France, c'était 59% des Français qui qualifiaient Trump lui-même de dictateur. Donc il y a vraiment un retournement là qui a été complètement intégré par les opinions. Et aussi, dans une certaine mesure, une forme de crise de l'identité des Européens vis-à-vis des États-Unis et un « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que dans notre enquête, on voyait ce qu'il faut rappeler, c'est que les Américains continuent majoritairement de considérer les Européens comme des alliés, ce qui ne semble pas si évident quand on voit l'attitude de leur président. Mais à l'inverse, quand on demandait dans notre sondage « est-ce que vous considérez ces différents pays comme des alliés ou des ennemis ?» Eh bien, s'agissant des États-Unis, on avait seulement 24% des Français qui disaient aujourd'hui « les États-Unis sont un allié », 23% des Allemands, c'est extrêmement bas. S'agissant des Britanniques et des Polonais, c'était un petit peu plus haut parce que ce sont des pays qui sont encore plus atlantistes traditionnellement. C'était un petit peu au-dessus de la moyenne, mais de courte majorité. Donc on voit que vraiment l'opinion européenne s'est énormément déplacée dans la relation aux États-Unis.
Vous avez raison de le rappeler, le 28 février, c'est un moment extraordinaire, parce qu'en fait, on a beau se livrer, et en particulier le samedi matin, grâce à d'excellents invités, à toutes sortes d'analyses géopolitiques, plus ou moins rationnelles. Mais ce moment-là, Zelensky se faisant humilier dans le bureau ovale, ça a touché à l'émotion. Et en fait, ça a traversé, me semble-t-il, en profondeur nos opinions publiques. Gilles Gressani, vous publiez donc dans Le Grand Continent un sondage que vous avez publié Eurobazooka, donc déjà c'est assez, comment dire, énergique. Quelle est selon vous la leçon de ce sondage général ?
On est parti vraiment du constat que vous faites, à savoir que nous entrons dans une phase dans laquelle le filtre automatiquement appliqué est un filtre presque impérial. On voit des grands hommes qui bougent leurs pions sur un échiquier planétaire et on oublie en fait, en réalité, les sociétés. Et l'Europe, au moins, est encore un espace politique dans lequel les sociétés, les opinions publiques comptent énormément. Et donc il faut sortir de cette espèce de piège qui est joué, de cette espèce de filtre qu'on pourrait presque dire un filtre poutinien, enfin, qui nous fait voir les choses toujours par les yeux de l'empereur, et essayer de voir en fait ce qui se passe au centre de la cité. Et donc, pour faire cela, il y a des méthodes qui sont bien éprouvées. On les a mises en place avec nos partenaires de Cluster 17 pour essayer de faire quelque chose qui est assez inédit. C'est au fond essayer de poser la question, est-ce qu'il y a une opinion publique européenne aujourd'hui, à savoir est-ce qu'il y a une convergence des Européens sur des positions assez claires à partir de la représentation qu'on se fait d'Elon Musk, de Donald Trump, de la guerre en Ukraine, etc. Et le résultat de cette grande enquête est assez net. Il y a aujourd'hui une opinion publique européenne. À savoir, il y a une majorité très conséquente qui, par exemple, considère qu'on ne peut pas faire confiance à Elon Musk. On est dans presque tous les pays à plus de 70%. Il y a une majorité très nette, ça a été rappelé, mais c'est intéressant de le voir quand on regarde vraiment les deux tiers, en fait, de la population européenne, qui considère que Donald Trump est soit déjà aujourd'hui un dictateur, soit quelqu'un qui a des tendances très fortement autoritaires. Et il y a aussi une majorité qui n'est pas aussi nette, mais qui existe, on est en plus de 50%, 51%, qui considère que Donald Trump est un ennemi. On a exprès posé une question aussi clivante, aussi dure.
Avec ce mot-là.
Le mot ennemi, le mot ami, et évidemment une position d'incertitude. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une majorité à plus de 51% d'Européens qui considèrent que Trump est un ennemi. Il y a une très petite minorité, moins de 10% des Européens, 9% pour être précis, qui considèrent que c'est un ami, et encore un espace d'incertitude. Mais ce qui montre, encore une fois, que nous sommes face à un phénomène qui est un phénomène de masse, et c'est ça ce qu'on a essayé de faire avec Eurobazooka, c'est de montrer que dans un moment de si forte transformation, alors que l'épicentre à Washington, en fait, le tremblement de terre est en Europe, et donc peut-être ce n'est pas si utile d'étudier l'offre politique, comment se positionnent les partis, comment se positionnent les leaders. On est encore dans une phase dans laquelle il faut étudier la demande. Et cette demande est tellement massive qu'elle va finir, d'une manière ou d'une autre, par transformer aussi l'offre politique.
Et quelle est la demande, en fait ?
Je dirais qu'au fond, nous sommes très loin d'une demande d'un renforcement d'une force de défense offensive. Dès que vous posez des questions sur l'Ukraine, sur la continuation de la guerre, vous retrouvez à nouveau des forts clivages et l'incapacité de dégager une majorité très nette. Par contre, tout ce qui concerne en fait une capacité de résister à cet effort de vassalisation extrêmement brutal qui nous arrive et qui entremêle la Silicon Valley et la nouvelle forme d'insurrection numérique qui se déploie depuis la Maison Blanche jusqu'à, au fond, des tentatives d'annexion territoriale très nettes. Dans le sondage, on a posé des questions aux Danois. C'est très remarquable. C'est assez évident, mais assez remarquable de voir comment
on a dit l'historique. Et J.D. Vance, qui est au Groenland ce matin, a considéré qu'il fait froid. Mais ça, il aurait pu le savoir avant de partir. Dominique Régnier, vous avez publié avec la Fondapol une étude très intéressante, il y a quelques mois déjà, sur les mouvements populistes qui sont à l'œuvre partout dans nos pays européens. Comment est-ce que l'effet Trump, tel que Laurence et Gilles viennent de le décrire, comment est-ce que cet effet Trump, à mon avis, percute cette ascension populiste, quelle que soit sa traduction partisane, on n'en est pas encore là, et quels que soient les pays d'ailleurs.
En fait, en m'inscrivant dans les propos qui ont été tenus à l'instant, ce qui est frappant, c'est qu'on a une double conjonction, et ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire la manifestation d'une opinion publique européenne. La fois précédente, c'était en 2003-2004, avec l'affaire de l'Irak, et il y avait bien une opinion publique européenne, d'ailleurs à l'époque soulignée avec force par Habermas et Derrida, et qu'on avait pu mesurer, je l'avais fait pour ma part, dans des manifestations européennes cette fois-ci, c'était pas les sondages, des gens dans la rue partout, contre l'intervention en Irak sans le mandat de l'ONU. Et donc, cette fracture avec les Américains est de toute façon un élément constitutif de l'opinion européenne. Et quand il y a cela, c'était déjà le cas en 2003-2004, il y a aussi la poussée populiste. C'est convergent. Et on le retrouve aujourd'hui, en effet. Et pour vous, pour marquer le tout ce qui a été fait en quelques mois, l'enquête que nous avons menée dans 27 pays de l'Union et dans les Royaumes-Unis, qui fait 28 pays, on a mené une enquête en avril 2024. Donc, il n'y a pas longtemps, mais dans un monde encore très différent.
Avant les élections
européennes. Et je regardais ce matin, est-ce que vous pensez que les États-Unis vont venir en aide aux pays européens qui seraient attaqués par une puissance extérieure? Oui, 75%. Royaume-Uni, oui, 76%. Soutien à l'OTAN, oui, 65%. États-Unis sont une menace, 33% seulement, etc. Et donc, ce que l'on voit clairement, c'est cette espèce de retournement complet qui a inévitablement saisi les Européens, qui, on s'en doutait, mais qui n'avaient jamais imaginé qu'il y aurait cette espèce de rupture aussi grave, subite, à l'intérieur de la famille de référence, en réalité. Et donc, dans ce moment-là, quelque chose se passe, qui est au fond l'accomplissement d'une demande très ancienne, qu'on mesure depuis 25 ans, ce que moi j'appelle une demande de puissance publique européenne. Un repli sans nationalisme. En réalité, un repli européen, un repli sans nationalisme.
Un
repli post-national, un repli à l'intérieur de l'Europe. Affirmez les frontières, dotez-vous d'une armée, ayons une armée commune, en plus des armées nationales, mais ayons une armée commune. Libérons-nous de l'espace public numérique américain. C'est une demande qui est très forte depuis quelques années.
Qui est très forte alors que tout le monde, évidemment, en dépend.
Naturellement. Et donc tout ceci aujourd'hui pour converger vers une espèce de moment, là, de décision. Il est évident que c'est ce qui va devoir être tranché. Et c'est un moment qui permettrait à cette nouvelle poussée du sentiment européen associée à une poussée sans précédent des populistes, je le rappelle, puisque les élections européennes 2024 sont un succès sans précédent pour les populistes en Europe, la droite en général, mais les populistes en particulier. Que demande-t-il? Et ce que j'observe dans notre étude, pays par pays, parti par parti, la demande n'est pas une demande antidémocratique chez les électeurs, c'est une demande de puissance publique. Frontières communes, 86% des Européens demandent le soutien, la défense et la protection des frontières communes, armée commune, capacité commune à avoir notre propre espace public, bref, et puis toute une série de données que je ne vais bien sûr pas livrer comme ça, ce serait inaudible, mais sur l'attachement aux valeurs démocratiques, aux choix, etc., qui sont, y compris à l'intérieur de ces électorats, très dominantes. Donc en réalité, le rendez-vous commun qui pourrait réunir beaucoup d'Européens aujourd'hui, s'il réunit en tout cas leurs représentants, car il y a une vraie dissociation entre les représentants et les Européens, c'est la construction d'une puissance publique co-européenne.
Marc Lenneud, merci d'être avec nous depuis Londres. On a l'impression que nos amis britanniques redécouvrent qu'ils sont en fait européens. D'après les nombreuses et très régulières études auxquelles se livre votre centre de recherche, le Centre européen des relations internationales, cette nouvelle géographie politique au niveau du Royaume-Uni et du continent, quelles sont ces caractéristiques les plus saillantes?
Merci beaucoup. Oui, on a fait beaucoup de sondages depuis longtemps dans une quinzaine de pays européens, mais aussi sur le plan mondial. Mais ce qu'on a vu, c'est, comme l'ont décrit les autres participants, une vraie rupture dans l'opinion publique où l'atlantisme de beaucoup de pays comme le Royaume-Uni, le Danemark, la Pologne a été rompu par l'élection de Trump et ce qu'il a fait depuis son élection. Mais on voit que c'est d'abord dans les pays qui étaient les plus atlantistes avant et dans les partis les plus atlantistes où il y a cette crise et cette nouvelle prise de conscience envers les États-Unis. Mais c'est aussi intéressant qu'on voit un nouvel atlantisme qui se développe aux extrêmes. Alors si on regarde parmi les partis, par exemple en Italie, c'est le parti de Meloni, en Pologne, c'est le parti de Kaczynski et la Confederatio, en Espagne, c'est le Vox, en Allemagne, c'est l'AFD, en France, le RN, où il y a beaucoup plus de sympathie pour Trump. Et dans les partis qui étaient plus atlantistes avant, par exemple la CDU ou le parti conservateur en Angleterre ou le parti d'Emmanuel Macron, on voit un grand changement dans l'opinion publique. Alors il y a un atlantisme aux extrêmes et les partis du centre et du centre de la centre droite et centre gauche deviennent beaucoup plus sceptiques envers les États-Unis.
Donc, en fait, l'atlantisme aux extrêmes, là où Donald Trump a encore des admirateurs et même sûrement des gens qui envient cette méthode extrêmement brutale à la fois de dégraisser l'État central et de revenir sur un certain nombre de valeurs que ces gens-là estiment foulées aux pieds. Dominique Régnier, il y a l'effet Trump, mais il y a aussi l'effet Poutine. Et donc, est-ce que ce sont les mêmes extrêmes, que soient à droite ou à gauche, qui sont à la fois pro-Trump et pro-Poutine d'une certaine manière?
Alors, vous l'avez très bien dit à l'instant, là, le double effet Trump sur le fond, c'est moins d'État, plus d'identité, on pourrait d'ailleurs le dire comme ça, les valeurs fondamentales, traditionnelles, etc., qui sont défendues, et dans la lettre que vous mentionnez au début, témoigne.
Oui, sur le, en disant aux entreprises françaises qui ont des contrats avec le, l'État fédéral américain, vous ne pouvez plus pratiquer des mesures de discrimination positive.
Là, ça va être, je pense que dans beaucoup de pays européens, notamment en France, ça va être assimilé à un nouveau débarquement libérateur des Américains.
Oui.
Dans une bonne partie de l'opinion, ils vont nous délivrer de ce qu'on a appelé le wokisme, dont nous n'arrivions pas à nous débarrasser ici, etc. Donc ça, ça, c'est sans doute quelque chose qui va avoir un effet profond et qui du coup va...
Et au-delà des extrêmes, en l'occurrence.
Au-delà des extrêmes, parce que de toute façon, ça va avoir pour effet... C'est très populaire, ça, cette lettre. Hein. Là, l'écho sera très populaire. Et l'effet sera de continuer à droitiser l'espace politique européen et de continuer à, si je puis dire, opérer le tournant populiste de la droite européenne à l'intérieur de ce mouvement. J'espère que ma formule n'est pas trop alambiquée. C'est ce double mouvement que l'on observe aujourd'hui en Europe, je crois. Et là... La relation avec le trumpisme, elle est une relation de fascination plus ou moins avouée du côté de la droite et de la droite populiste, même si c'est pas toujours simple de suivre ce président américain. Par contre, du côté de l'extrême gauche, type LFI, D-Link ou d'autres expressions de ce type en Europe, c'est moins massif, elles sont moins nombreuses bien sûr, mais là il y a une asymétrie, c'est-à-dire que c'est difficile d'être derrière Trump quand on est la France insoumise. Et donc on les retrouve davantage, les uns et les autres, la droite la populiste comme la gauche populiste, on les retrouve davantage dans le poutinisme. Et c'est là que à la fois il y a cette espèce de double mâchoire au fond avec les deux parties, le trumpisme et le poutinisme, qui saisissent pratiquement la part la plus importante des électorats protestataires, presque tous aujourd'hui en Europe. Et il faut pas oublier, je termine là-dessus, Christine O'Krent, que si on prend le cas de la France pour avoir une mesure à laquelle chacun peut se référer aisément, en 2022, le total des candidats protestataires au premier tour est majoritaire à la présidentielle. Majoritaire. Donc c'est quand même une... Si on les agrège, ça fait une majorité. C'est tout de même une situation qui est sans précédent, que ce soit pour Poutine comme instrument d'action d'une puissance inouïe sur l'espace politique européen, ou pour Trump pour déstabiliser les gouvernements en place et les majorités établies, plutôt majorité centrale, centriste.
Gilles Cassani, ce qui est frappant néanmoins, c'est que en France en particulier, mais aussi au Royaume-Uni, les dirigeants, en l'occurrence Emmanuel Macron, Keir Starmer, qui semblent fort bien s'entendre, ce qui est important, l'alchimie à ce niveau-là joue aussi son rôle, bénéficient d'une cote de popularité en très nette hausse. Et donc, au-delà de ce que décrit Dominique, il y a ce phénomène-là, c'est-à-dire les opinions publiques se rallient autour de celui qui a, en l'occurrence, dans le cas de ces deux dirigeants, un langage de fermeté et d'union au niveau européen.
Tout à fait. Je pense qu'il y a de plus en plus, mais écoutez, votre émission Affaires étrangères le montre. Affaires étrangères, désormais, c'est presque affaires intérieures. Parce que nous sommes sur des clivages qui sont tellement forts que, au fond, la recomposition politique de l'intérieur se fait par l'extérieur. Et il y a cet effet drapeau. Maintenant, je pense qu'il y a un sujet qui est assez délicat et assez intéressant à observer. C'est qu'en réalité, une bonne partie des forces qui pouvaient se réclamer du trumpisme, et qu'en fait, on aurait pu se dire « on va faire exactement la même chose que Donald Trump est en train de faire », en fait, ont aujourd'hui un obstacle majeur sur leur route. C'est que, même dans leur électorat, une partie importante d'électeurs condamne l'action de Donald Trump. Et je pense plus profondément que cette logique du débarquement de Normandie, en fait, est perçue, et ça a été très bien vu, je pense, pendant la conférence de Munich, comme un acte d'ingérence et non pas de libération. Regardez ce qui s'est passé quand J.D. Vance va à Munich et dit, effectivement, c'est un peu le même discours qui se retrouve dans cette lettre, vous êtes empêtré dans des idéologies mortifères, on vous offre la liberté, etc. Il a une formule, il dit, il y a un nouveau shérif qui est arrivé. Et devant lui, il y a le chancelier Merz, le prochain chancelier Merz, qui l'écoute au premier rang. Il est à quelques mètres de distance. Quel est le résultat réel et effectif de cet échange? C'est que il y a eu une mobilisation électorale beaucoup plus forte en Allemagne, inédite, des niveaux totalement historiques depuis l'unification du pays, que l'extrême droite a évidemment augmenté, mais pas assez pour effectivement aujourd'hui nuire à la possibilité d'une grande coalition, qui elle-même, par contre, est aujourd'hui définie sur des valeurs totalement inédites. Enfin, on parle quand même de l'ancien président de BlackRock Allemagne, qui est quand même un bon indicateur d'atlantisme.
Absolument, un atlantiste fervent.
Qui dit explicitement et met sur le même plan le Kremlin et la Maison Blanche comme des auteurs d'ingérence sur la politique interne allemande et considère que c'est absolument nécessaire à cause de cela de construire celle que peut-être Dominique Renier appellerait une puissance publique européenne. Et donc c'est là, je pense qu'il y a quelque chose qui est très profond et qui est en jeu, c'est que Donald Trump n'est pas en train de constituer aujourd'hui une internationale réactionnaire. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il voudrait transformer l'OTAN en pacte de Varsovie. Il voudrait avoir un espace, un grand espace, dans lequel il n'y a pas de souveraineté ailleurs qu'à Washington, que ce soit sur le militaire, le digital ou le politique, et que les autres pays peuvent avoir des faux semblants de souveraineté, mais ils doivent fondamentalement et uniquement être alignés. Ils peuvent avoir des couleurs politiques similaires, mais si la métropole demande de la terre et veut annexer un bout de territoire, il faut répondre. S'il veut, la métropole, qu'il n'y ait plus de régulation de l'espace numérique, il faut répondre. Et c'est là, je pense que c'est aussi une question intéressante, ce qui est en train de se passer en Italie, montre jusqu'à quel point cette dynamique, cette espèce de rouleau compresseur trumpiste, cette brutalité de la gouvernance fait que, au fond, celle qui pouvait être l'alliée un peu la plus simple pour la nouvelle administration Trump se trouve aujourd'hui dans une position extrêmement difficile et fragile.
Avant de revenir sur l'Italie, Laurence de Nerveau, vous avez travaillé avec Destin Commun sur l'Allemagne. Et l'Allemagne, on sait traditionnellement, et pour des raisons historiques qui continuent de pénétrer évidemment la mémoire allemande et la nôtre, et il y a à la fois un courant pacifiste très fort qui s'exprime désormais davantage dans les extrêmes, et à la fois l'AFD, qui est à l'extrême droite, et la gauche radicale, BSW, d'après les initiales de la dame qui régit ce mouvement-là, qui a fait une percée tout à fait inattendue. Mais pour les Allemands, beaucoup plus que pour aucun peuple européen, la rupture avec les États-Unis, c'est existentiel.
Absolument. Alors, pour vraiment matérialiser ce que Dominique Régnier décrivait tout à l'heure, cette tentation des segments contestataires de l'opinion pour le pro-poutinisme ou le pro-trumpisme, et en particulier s'agissant de l'Allemagne, on a des points de données dans notre enquête qui sont particulièrement éclairants sur la question basique mais fondamentale de savoir qui est responsable de la guerre en Ukraine. Quand on regarde quels sont les groupes qui désignent clairement la Russie comme responsable de la guerre, on voit des écarts énormes, en fait, entre les partis de droite radicale ou d'extrême droite des différents pays européens. Et en particulier, on voit que l'AFD allemande est hors du décor, si vous voulez.
C'est-à-dire ?
Alors, en France, par exemple, d'ailleurs, entre parenthèses, LFI et l'ERN sont exactement au quasiment même endroit. C'est 54% pour l'un, 58% pour l'autre qui désignent des partisans de ces partis qui désignent la Russie comme responsable. En Allemagne, c'est seulement 33%. C'est extrêmement bas. Et au Royaume-Uni, à l'inverse, les partisans de Reform UK, ça monte jusqu'à 70%.
Donc ça, c'est Nigel Farage.
Voilà. Qui, en fait, reste beaucoup, beaucoup plus proche des partis de gouvernement et des travaillistes et des conservateurs, alors que vraiment, l'AFD allemande ressort de façon particulièrement nette sur cette question, comme étant totalement pro-russe, ce qui explique évidemment l'empressement qu'a eu Friedrich Merz à peine les élections gagnées par son parti à faire adopter par le Bundestag sortant la réforme permettant d'augmenter
Oui, il paraît que juridiquement, c'était possible en Allemagne. On imagine en France les hurlements que cela aurait provoqué.
Effectivement, et il s'en est empressé parce que cette petite révolution qui consistait à permettre à l'Allemagne d'augmenter fortement son budget de défense n'aurait évidemment pas été possible avec le nouveau Bundestag dans lequel l'AfD est le premier parti d'opposition. Donc ça, c'est pour la tentation pro-poutinienne d'une partie de l'opinion allemande aujourd'hui. Et un petit peu en miroir, ce que disait Marc tout à l'heure, la tentation pro-Trump d'autres segments contestataires de l'opinion, en Pologne en l'occurrence. En Pologne, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a un énorme consensus sur la question de la sécurité, qui au passage ne veut pas dire la même chose qu'en France. Quand on parle de sécurité en France, on parle de sécurité intérieure. Les Polonais, quand on leur dit sécurité, ils pensent tout de suite sécurité extérieure.
Bah, il suffit de regarder la carte. Voilà,
ça illustre sans doute un changement de paradigme dans lequel on est tous...
Et l'histoire.
Voilà. Mais donc, en Pologne... Il y a consensus sur la priorisation nécessaire de la sécurité à la fois militaire et énergétique. En revanche, là où il n'y a pas consensus, c'est sur les moyens, la façon de s'y prendre. Et en l'occurrence, on a le PiS et la droite conservatrice qui sont là dans une forme de néo-atlantiste, comme pour reprendre la formule de Marc, parce que en fait, le PiS a une profonde aversion pour l'Union européenne et encore plus pour les Allemands. Et dans le contexte actuel où le plan de réarmement européen pousse à l'achat conjoint d'armes en Europe, eh bien, le PiS dit en fait, ce sont les Français et les Allemands qui veulent nous forcer à acheter leurs armes et qui veulent pousser les États-Unis hors d'Europe. Et dernière circonstance intéressante, le PiS, en fait, parce que l'accroissement des dépenses militaires de la Pologne avait commencé déjà depuis plusieurs années sous le gouvernement du PiS, mais avec un approvisionnement très largement américain, mais aussi sud-coréen.
Et Corée du Sud.
Voilà, sud-coréen. Et justement, comme le PiS a créé cette dépendance de fait vis-à-vis de la Corée du Sud, ils sont obligés de le justifier en disant qu'il faut garder cette possibilité d'acheter sud-coréen ou américain. Et l'autre circonstance, c'est ce rejet assez viscéral des Allemands, des Français, plus largement de l'Europe.
Mais ils ont une élection présidentielle dans quelques semaines, en mai.
Effectivement.
Et donc, évidemment, ça rend plus difficile,
ça fera
en tout cas pour les partisans du Premier ministre Donald Tusk, Dominique Régnier.
Christine Lecrène. Ce qui est fascinant, c'est que en Pologne, comme en Allemagne, où il y a ces partis très anti-européens, les populations ne sont pas favorables à la sortie de l'Union européenne et même pas à la sortie de l'euro. Et donc, c'est un obstacle pour ces partis. Et quand on parle du PiS et de l'AfD et d'autres partis de ce genre, il ne faut pas oublier qu'on parle du discours des leaders, mais pas de l'opinion de leurs électeurs. Et c'est quelque chose à quoi il faut être attentif parce qu'on a parfois des surprises à voir le comportement de ces électeurs.
On retourne à Londres, vous rejoindre Marc Lenne de ECFR. S'agissant du Royaume-Uni, où on a vu là aussi que le Premier ministre qui avait subi véritablement une glissade dans les sondages remonte un peu, si j'ose dire, grâce à Donald Trump et grâce à Vladimir Poutine. Pour autant, est-ce qu'il y a un consensus sur les moyens à mettre en œuvre pour les budgets de défense en particulier, alors que l'économie britannique est au moins en aussi mauvais état que la nôtre? Et pourquoi ce regain et cette ambiguïté au niveau d'une extrême droite, il faut bien l'appeler ainsi, qui dans les sondages, pour le moment, fait mieux que le parti conservateur traditionnel?
Oui, c'est très intéressant. Storm a eu un moment Churchill, c'est le nouveau Churchill, le leader d'un pays qui se sent fragilisé, et les opinions publiques il y a beaucoup de peur de Trump. Il y a beaucoup un grand sentiment de destin européen, et la plupart de la population pense que l'avenir britannique se fera avec des liens beaucoup plus proches entre Londres et l'Union européenne. Et ça commence avec la question de l'Ukraine et de la sécurité européenne. Il y a une majorité de Britanniques qui veut continuer à soutenir l'Ukraine, même si les États-Unis changent de parcours. Et ce qu'a fait Starmer avec Emmanuel Macron, cette volonté de créer une coalition des, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, the coalition of the winning en anglais, la coalition
des volontaires.
Des volontaires. Ça a eu beaucoup d'écho dans l'opinion publique et ça a permis à Starmer de se réinventer comme Premier ministre après ce déclin, après les élections. Et je pense que, en fait, l'opinion publique est en avance de la politique et des représentants dans la maison des communes, parce que eux, ils ont encore très peur de rouvrir les questions du Brexit de 2016, parce qu'il y a beaucoup de circonscriptions dans le nord de l'Angleterre qui ont voté contre, enfin qui ont voté pour le Brexit, mais c'est des circonscriptions qui ont une tradition de voter pour le Parti travailliste. Alors ils ont très peur de perdre ces circonscriptions qu'ils ont réussi à regagner dans la dernière élection, mais que Boris Johnson avait gagné quand il était le chef du parti conservateur. Ça veut dire que si on regarde les sondages, la majorité des Britanniques veulent avoir des liens beaucoup plus proches dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans le domaine de l'économie. Et on voit même une majorité qui serait prête à soutenir la migration entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne et un retour au marché unique parmi les gens qui ont voté pour quitter l'Union européenne en 2016.
Gilles Gressani, venons-en à l'Italie. Vous avez commencé à nous en dire un mot. C'est le cas le plus intéressant dans tous les sondages de vos différents instituts, parce que il y a une majorité d'Italiens, semble-t-il, 62%, je crois, qui sont contre l'idée de réarmer leur pays, 53% contre l'idée d'une extension de la dissuasion française pour protéger l'Italie, et 37% seulement pour un soutien militaire accru à l'Ukraine. Et donc, on voit que Madame Meloni, très habile, mais qu'on sent tiraillée entre son affection pour Elon Musk, son admiration pour Donald Trump, et néanmoins l'appartenance historique, fondatrice de l'Italie à l'Union européenne, elle a un jeu de prestidigitation assez remarquable.
Oui, l'équilibre est de plus en plus fragile. Je pense que le pari de Meloni était assez linéaire et elle a décidé assez tôt, d'ailleurs, sans doute au mois de mai, entre avril-mai de l'année passée, qu'il fallait miser sur Donald Trump comme président des États-Unis et qu'un deuxième mandat de Donald Trump aurait été à peu près comme le premier mandat, c'est-à-dire avec une présidence un peu chaotique mais transactionnelle. Et donc, en se positionnant comme la leader la plus proche de Trump, de Musk, elle aurait eu un gain de cause. Parce que si c'est transactionnel, ben, si vous êtes le dealmaker d'un deal, par définition, vous êtes la personne qui invite les personnes autour de la table, qui peut en tirer des bénéfices, qui contrôle en fait une bonne partie de l'agenda. Et la raison qui fait qu'aujourd'hui, son pari est en train d'être perdu, c'est qu'on est bien dans une nouvelle phase du trumpisme. On pourrait revenir sur les raisons, mais en fait, aujourd'hui, Trump n'est pas transactionnel. Il est asymétrique et unilatéral. Et donc, en fait, vous ne gagnez pas grand-chose à être proche de lui. Et cela se retrouve, à mon avis, dans des indicateurs, des points de notre sondage Eurobazooka qui se retrouve dans le Grand Continent, qui sont assez surprenants, en réalité, quand on les observe. Parce que, effectivement, vous en avez bien parlé, elle a mis en avant une proximité avec Elon Musk. Très, très travaillé. Depuis assez longtemps, ils se reconnaissent tous les deux comme des leaders différents, mais qui, en convergent, qui ont une vraie convergence, qui s'admirent, qui se reconnaissent, qui s'aiment. Il y a aussi des mèmes qui se tournent sur... Il y a vraiment une convergence idéologique profonde. Eh bien, quand on regarde les sondages, 70% des Italiens n'ont aucune confiance en Elon Musk. Et en fait, vous avez une majorité des Italiens qui veulent boycotter Tesla et boycotter Starlink. Donc en fait,
Starlink, et il est question que le ministre de la Défense italien adopte Starlink pour renforcer l'appareillage de renseignement italien.
Oui, comme moyen de télécommunication sécurisé. Et ce projet, justement, a dû être abandonné, précisément parce qu'il y a un réveil de l'opinion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, aujourd'hui, c'est très difficile de se positionner comme un leader qui est dans la cohérence et dans la continuité de Donald Trump si vous voulez être majoritaire. Et ce qui se retrouve en Italie, c'est vraiment ça. Je pense que ça va être un peu, quelque part, le piège dans lequel se retrouvent un tas de partis, du Rassemblement National jusqu'à à d'autres partis qui veulent, disons, de l'extrême droite prendre le centre. C'est que c'est très difficile, avec une ligne de cohérence et non pas une ligne combative de résistance vis-à-vis de cette administration, de, au fond, répondre à une demande profonde de l'électorat. Concernant...
Il y a évidemment le cas hongrois, mais où là, il y a à la fois... c'est un courant qui traverse quand même cette partie-là de l'Europe centrale, les Balkans, un courant pro-russe,
oui. Mais dans les sondages,
soutenu par l'Église orthodoxe, y compris la Grèce, il faut quand même le souligner, et un courant pro-Trump.
Oui, mais dans les sondages hongrois, Orban n'est plus en tête. Et en fait, il est aujourd'hui face à une opposition de plus en plus structurée. Donc, on est à la veille d'un tremblement de terre, parce qu'effectivement, c'est très difficile aujourd'hui de jouer l'atlantisme, même si, effectivement, vous avez une continuité idéologique vis-à-vis de Donald Trump. Donald Trump, aujourd'hui, ne veut pas faire de deal avec vous. Il faut être deux pour danser. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas une offre de cohérente d'alliance, c'est une offre fondamentale de vassalisation brutale.
Dominique Régnier, ce qui est frappant dans le climat qui semble partagé par les Européens. Je regardais le dernier Eurobaromètre, dont l'intérêt est qu'il est récurrent. Donc, 25 mars dernier, 89% des Européens, donc Eurobaromètre, c'est Union Européenne, hein, ça n'inclut pas, en l'occurrence, le Royaume-Uni. 89% veulent plus d'unité au sein de l'Europe. Deux tiers des Européens souhaite que l'Union européenne en tant que telle joue un plus grand rôle dans leur protection, alors que ce n'est pas son mandat. Il faut toujours le rappeler par rapport à ceux qui craignent, évidemment, le complot fédéraliste des européistes, pour reprendre le vocabulaire coutumier. Mais on se rend compte aussi que les gens sont très inquiets. Et qu'il y a un glissement de vocabulaire. On parlait de crise, on a l'impression que ça fait... on est en crise depuis toujours, une crise ou une autre. Et là, on parle de guerre. Donc, ce glissement de vocabulaire est un facteur d'inquiétude supplémentaire.
C'est un facteur d'inquiétude supplémentaire. Et ça rejoint ce que dit l'Eurobaromètre, rejoint cette idée que les Européens veulent opérer un repli sans nationalisme. Je crois que c'est vraiment le point clé. Ils veulent un repli intra-européen sous la protection d'une puissance publique européenne et ils y adhèrent massivement.
Mais une puissance publique européenne qui n'a pas les outils.
Qui n'a pas les outils. Mais c'est là que je considère qu'il faut parler d'Européens abandonnés au populisme par les chefs des différents partis et les différents responsables européens, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on voit ça, cette demande à une Europe qui ne se dote pas des outils qui satisferaient la demande des Européens, notamment, je le redis, contrôle des frontières, régulation d'immigration, etc. C'est resté lettre morte jusqu'à présent. Et donc, ces Européens se tournent vers des partis dont ils ne veulent pas les voir nous conduire à la sortie de l'Europe, surtout pas. Et il n'est pas nécessaire d'imaginer que les Européens vont devoir aimer Donald Trump ou aimer les États-Unis. Je crois que ça, le traitement qui nous est infligé fait que, avant longtemps, ce sera difficile. Par contre, il y a d'une part cet effet détermination dans ce qui est une peur, mais qu'on pourrait qualifier aussi de profonde préoccupation, pour remettre là-dedans une forme de rationalité, parce que la guerre, en effet, qui est redoutée comme jamais par les Européens, est une vraie menace. Ça n'est pas fantasmagorique. Donc c'est une préoccupation profonde et qui détermine un mouvement historique auxquels les Européens auraient pu répondre s'ils avaient été préparés, s'ils avaient mieux compris, les dirigeants, je veux dire, hein, de quoi était fait ce continent en termes d'opinion. Mais les effets sur nos propres systèmes politiques, je ne sais pas, Christine Ockrent, si vous voulez que je dise un mot là des effets, par exemple, sur le populisme en France, ou si vous préférez qu'on en reparle plus tard, je ne veux pas...
Non, allez-y.
...bouleverser votre plan. Mais ce qui est frappant pour dire ceci, c'est-à-dire que n'attendons pas que les Européens aiment Donald Trump dans ce qu'il nous fait. Ça ne peut pas se produire.
Non, mais c'est de quel âge sur lequel vous insistez tous, en fait. Et Laurence, évidemment, le commentera à son tour. Mais ce décalage, en fait, entre les opinions publiques, qui sont avec véritablement des signaux très convergents.
Très convergents.
Et en même temps, les dirigeants politiques, quelles que soient les familles, et bien sûr les extrêmes, mais ça, c'est, en fait, ce sont les plus faciles à situer dans cette cartographie. Mais ce décalage-là, il existe partout. Autrement dit, nous aurions en Europe des dirigeants, à commencer par les partis traditionnels.
Tous les partis.
Du centre. Qui ne prennent pas en compte ce que vous décrivez, Dominique, comme une demande d'une puissance protectrice européenne.
Voilà. Mais tous les dirigeants de l'Union européenne, comme les dirigeants de tous les partis, parce qu'il y a les partis, pour faire simple, on va dire libéraux, démocratiques, centre-gauche, centre-droit, qui se trompent lorsqu'ils parlent des électeurs des partis populistes, parce qu'ils voient dans leur tête les dirigeants de ces partis populistes, et donc ils se trompent, ils sont injustes avec les électeurs qu'ils stigmatisent la plupart du temps. Mais il y a aussi les chefs des partis populistes qui se trompent aussi, parce qu'ils imaginent être porteurs d'un message dont leurs électeurs ne les ont pas chargés. Ils ne veulent pas, ni en Hongrie, 85% des Hongrois ne veulent pas quitter l'Union européenne. C'est la même chose partout. L'Europe triomphe.
Et en France.
En France, c'est pareil. Si bien que tous ces partis populistes, quand ils sont concernés, c'est-à-dire quand ils sont dans la zone euro, c'est ce que je voulais évoquer, sont obligés d'adopter une position très compliquée pour faire comprendre qu'ils ne vont pas, comme ils l'avaient promis autrefois, quitter l'euro, parce que là, Christine Ockrent, ça serait fatal électoralement pour eux. Un parti populiste qui ferait campagne, aujourd'hui en tout cas, avec le thème « nous allons quitter l'euro », serait éliminé, aurait un résultat déplorable. Donc ils sont obligés, ces populistes, de travailler à l'intérieur du même espace que les dirigeants des partis non populistes et que les dirigeants européens. C'est quand même étonnant que ce
d'où,
soit
d'où
là
le flottement.
Absolument.
Que l'on voit en particulier en France.
Et on ne peut pas le laisser durer, ce flottement, parce qu'il finira par se conclure, malheureusement, et malgré la volonté des Européens, je parle des électeurs, il finira par se conclure sur un repli vraiment identitaire et national, faute d'avoir eu un repli européen post-national.
Laurence Nervoureux.
Oui, je voudrais nuancer peut-être un tout petit peu une partie de l'analyse de Dominique Régnier avec laquelle je suis globalement d'accord, mais c'est simplement le terme de repli. Je ne pense pas que j'emploierais ce terme-là. Ce que nous voyons dans nos enquêtes, c'est que les termes, les notions qui sont les plus populaires et qui montent le plus haut dans l'opinion en ce moment, c'est les notions de reprise de contrôle, plutôt, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que repli, et vraiment la notion de souveraineté, en fait. Je pense que c'est ça la notion centrale. Voilà. Et j'illustre sur deux sujets, reprise de contrôle, souveraineté. C'était extrêmement net déjà pendant la campagne des élections européennes. La question de la réindustrialisation est extrêmement consensuelle dans l'opinion, y compris la dimension de réindustrialisation verte qui nous emmène vers la transition écologique, mais réindustrialisation de manière générale avec cette dimension de souveraineté, on voit que c'est très consensuel d'un pays européen à l'autre et aussi avec un consensus transpartisan en France, de LFI jusqu'au RN. Même chose sur un second sujet qui est la question des réseaux sociaux. On l'avait testé déjà il y a un an, on voyait une adhésion massive, une demande massive en fait de reprise de contrôle, de davantage de régulation et là aussi un consensus transpartisan tout à fait frappant de LFI jusqu'au RN pour ce qui s'agit pour la France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, cette demande de reprise de contrôle s'agissant des réseaux sociaux qui était un petit peu a priori, hein, une reprise de contrôle sur nos vies numériques, elle vient s'y greffer, s'y ajouter aujourd'hui une sorte de résistance à cet impérialisme européen, cet impérialisme numérique européen. Et c'est de plus en plus conscientisé en fait, chez les Français. Donc, c'est vraiment cette...
Vous mesurez comme moi pour vérifier que les Européens prennent leur distance avec la globalisation.
Ah, oui,
moi, je l'ai mesuré beaucoup, c'est-à-dire...
Globalisation, mondialisation.
Voilà, oui. Opportunité, menace. Les Français sont beaucoup plus pessimistes que les autres, mais les Européens, dans leur généralité, sont beaucoup moins favorables ou optimistes face à la globalisation.
Oui, c'est le pendant de cette demande de souveraineté. Ouais. Ouais.
Gilles Gressani, s'agissant de la dimension de nos vies numériques, on sait que le chantage s'annonce massif de l'administration Trump, qui va nous dire vos réglementations européennes, etc., fini, ou alors on vous coupe l'accès. Alors, qu'il y ait, comme vient de le dire Laurent, cette aspiration des Européens à retrouver une forme de souveraineté numérique, c'est hélas complètement irréaliste. On n'a aucun outil qui nous permettrait d'avoir une vie numérique autonome et nous sommes tous entièrement dépendants des GAFAM. Et là, on sait que ce sera, pour toutes les raisons évidentes, Donald Trump, le groupe qui entoure Donald Trump, tous ces techno-milliardaires, leur ambition idéologique.
La tech broligarchy, comme on l'appelle.
Voilà, cette ambition idéologique, eh bien celle-là, et nous, Européens, là, je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire.
Alors, moi, je suis d'accord sur le diagnostic, mais j'inverserais le rapport de force. Parce qu'en fait, le rapport entre les consommateurs européens et les GAFAM est plutôt dans le sens qui porte au fait que les GAFAM ont besoin des consommateurs européens. Il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui à la Silicon Valley qui fonctionne uniquement sur le marché américain. C'est d'ailleurs une bonne partie ce qui explique le changement radical entre le premier mandat Trump et le deuxième mandat Trump. Dans le premier mandat Trump, il y avait un côté isolationniste. On ferme les frontières, on fait un mur, on se renferme. Parce que la Silicon Valley n'était pas au bureau ovale. Aujourd'hui, la Silicon Valley est au bureau ovale. Ce qui signifie qu'en fait, c'est déjà une représentation du monde et de l'espace où le marché américain est trop petit. Les États-Unis sont trop petits, il faut beaucoup plus de consommateurs. Et où est-ce qu'on a des consommateurs qui ont du pouvoir d'achat ? En Europe. Donc, le paradoxe de ce raisonnement, c'est presque quelque chose d'un peu hegélien avec le maître l'esclave. En fait, en réalité, nous sommes le vrai maître et non pas du tout l'esclave des GAFAM.
Et c'est d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on va dire quand la Maison Blanche et tous les outils dont dispose la techno structure au pouvoir, ils vont nous dire bon, ben on vous coupe l'accès.
Le jour dans lequel Google coupe l'accès à l'Europe, Google s'effondre en bourse. Il faut des.
Oui, mais ce qui est beaucoup plus dangereux, et c'est quand même déjà le sentiment que l'on a, c'est que à Bruxelles, on est en train de mollir. Et donc on dit, ah mais oui, mais il y a trop de règlements et tout ça, et trop contraignant. Il y a d'ailleurs, au sein même de nos milieux économiques un peu partout en Europe, des gens qui poussent dans ce sens-là, en disant l'Europe, voilà.
Je pense qu'on s'est trompé quand on pose la question entre régulation et innovation, on se trompe totalement de cadre narratif et théorique pour décrire ce qui se passe. On n'est pas avec d'un côté des hauts fonctionnaires poussiéreux avec des pellicules sur leur veste et des longues cravates un peu qui pendouillent un peu trop bas et de l'autre côté des génies de l'innovation incroyable. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'un côté la possibilité d'une cité, d'une république européenne qui modère et qui utilise le rapport de force démocratique pour limiter la puissance, l'émergence de puissance et de monopoles puissants qui n'ont pas de pareil dans l'histoire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Et de l'autre côté, la tendance inverse, qui consiste à dire, au fond, on va créer un système qu'on définirait techno-césariste, dans lequel il y a une masse de consommateurs mous passifs, et le pouvoir se renferme derrière des épais murs dans lesquels des seigneurs tout-puissants décident de vivre, d'être immortels ou de...
Et d'aller sur Mars.
Et je pense qu'en fait, là, on a une vraie chance. Parce que, malgré tout, ce rapport de force-là, donc la démocratisation, la politisation du numérique, est ce que l'Europe a sans doute comme destinée face aux transformations profondes de l'espace politique de la nouvelle phase.
Marc Lehner, très brièvement, et pour sortir, si j'ose dire, de notre nombrilisme européen, votre institut a aussi publié les résultats d'un sondage très intéressant dans 24 pays, donc au-delà de l'Union européenne, avec en particulier l'Inde, si ma mémoire est bonne. Et là, on se rend compte qu'en fait, le reste du monde, vis-à-vis de Donald Trump, reste dans une attitude relativement amicale, favorable, etc. Et qu'il n'y a guère que les Européens qui sont dans l'état d'esprit qu'on vient de décrire.
Oui, en fait, c'est pas seulement les Européens, mais dans notre sondage, ce qu'on a vu, c'est que la majorité des pays et la majorité de la population dans les grands pays, en Inde, en Arabie Saoudite, en Russie, au Brésil, en Chine, l'Afrique du Sud, en Turquie, il y a une majorité de la population qui pense que Trump ne sera pas seulement une bonne chose. L'élection de Trump ne sera pas seulement une bonne chose pour les États-Unis, mais aussi pour leur pays, pour le paix dans la monde, la paix dans le monde aussi. Et les seuls pays qui sont très pessimistes, c'est les alliés les plus proches des États-Unis. Alors, c'est l'Europe, c'est la Corée du Sud, c'est le Japon, où ils ont très peur. Et je pense que les raisons sont en fait les mêmes, parce que dans les autres pays du monde, ils sont très contents de voir que les États-Unis vont plus faire la morale au monde, ne se voient pas comme le leader d'un système libéral mondial, mais plutôt que Trump se voit comme le chef d'un pays normal avec ses intérêts et qui met ses intérêts en premier et veut faire qui croit dans the art of the deal. Et ça veut dire c'est la fin d'un monde où les États-Unis ont un rôle hégémonique ça veut dire qu'il y a plus d'espace pour d'autres pays qui ont une volonté de former et de gouverner le monde. Et c'est très intéressant que cet exceptionnalisme des Européens et des autres pays alliés qui ont beaucoup bénéficié du monde qu'on a connu après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la fin de la guerre froide. Ça veut dire qu'il y a un optimisme dans le reste du monde qui fait un miroir au pessimisme européen face à Trump.
Un mot pour terminer, et c'est évidemment une conclusion extrêmement provisoire de cette conversation. Optimisme, pessimisme.
En tout cas, Dominique Régnier. Je voulais reprendre Christine Ocrenne.
Très vite,
Arabie
pardon.
Saoudite, Russie, Chine, Turquie, Inde, ça nous dit quelque chose. Ce sont des pays identitaires. La question pour l'Europe, c'est d'avoir une identité forte.
Une identité forte, Gilles.
Oui, et je pense.
On y est.
Il faut éviter de penser qu'il faut se transformer en des brutes. Nous serons toujours l'Europe et l'Europe ne se doit pas transformer en une espèce de délire poutinien trumpiste pour réussir. C'est tout le contraire. C'est en résistant à l'empire que l'Europe se projettera dans le futur.
Laurence Denervaux.
Oui, s'agissant de l'opinion européenne dans son ensemble, je pense qu'il y a un point d'alerte en particulier qui concerne nos jeunes, qui sont moins prompts à désigner la Russie comme responsable de cette guerre et plus relativistes s'agissant de la valeur de la démocratie.
Bien, j'espérais terminer sur une note optimiste. Elle est un tout petit peu tempérée. Merci à vous. 4. Donc, Laurence Denervaux, je recommande sur la plateforme de votre institut une étude comparative sur le soutien à l'Ukraine, une étude menée aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, c'est ce qui la rend fort intéressante. Marc Lehner, sur la plateforme de l'ECFR, vous signez avec Yvan Krastov et Timothy Garton-H un très très bon papier qui s'intitule « Seul dans le monde trumpien ». Je signale aussi la publication chez Stock du livre de notre ami Timothy, « Europe au pluriel, une histoire personnelle ». Et c'est particulièrement intéressant sur le voyage des Européens depuis 60 ans à peu près. Dominique Régnier, bien sûr, votre ouvrage sur l'histoire de votre institution, le Fondapol, des idées pour la cité, l'aventure d'un think tank aux éditions du CERF, il y a quelques mois. Et bien sûr, Gilles Gressani, Le Grand Continent et le sondage Eurobazooka, j'adore ce terme, Eurobazooka, avec une série de publications pays par pays. Voilà, à la réalisation ce matin, Anna Holweck, à la technique, Grégory Wallon. Laura Dutèche-Pérez m'a aidée, comme chaque semaine, à préparer cette émission avec la documentation de Radio France. Et voici maintenant les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.